Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI des 20h30 à Kinshasa, 21h30 à Kigali.
Sylvie Berruet.
C'est une avancée majeure dans le conflit dans l'est du Congo. Le Rwanda et la RDC se donnent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé tout à l'heure à Washington une déclaration de principe en vue d'une trêve. Nous y reviendrons avec Paul Lorgerie. La situation humanitaire est alarmante au Soudan depuis l'intensification des combats entre l'armée soudanaise et les FSR, les forces de soutien rapide, autour de la ville d'El Fasher. Et puis l'espoir, l'athlétisme et la Ligue de Diamants qui est de retour demain en Chine dans les starting blocks. Letsile Tebogo, le Botswanais qui avait créé la surprise à Paris en remportant le titre olympique sur le 200 mètres. Une nouvelle dynamique diplomatique est donc en marche pour la région des Grands Lacs. Bonsoir Paul Lorgerie.
Bonsoir.
À Washington, au département d'État américain, les ministres des Affaires étrangères de RDC et de Rwanda ont signé une déclaration de principe en vue d'une trêve dans l'est du Congo. Alors si le contenu de cette déclaration n'a pas encore été révélé, cela pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux voisins des Grands Lacs.
Oui Sylvie, car ces derniers temps, voir des officiels congolais et rwandais assis à une même table était devenu assez rare. C'est ce qu'a réussi à faire Marco Rubio. D'un côté, Thérèse Kouakambia Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. De l'autre, Olivier Nduhungirehe, chef de la diplomatie rwandaise. Et au centre, le secrétaire d'État américain qui espère que cet accord ouvrira la voie à des investissements dans la région des Grands Lacs. Car pour Washington, l'économie fait partie de la solution. Un accord minier est en discussion avec Kinshasa, mais aussi avec d'autres pays de la région. Selon Olivier Nduhungirehe, le président américain a réussi à opérer un réel changement dans la résolution de la situation à l'est du Congo, menant à la signature de cette déclaration de principe. Une signature qui, selon le ministre rwandais, permet de construire de nouvelles chaînes économiques de valeur entre les deux pays avec le secteur privé américain. Une signature pour Thérèse Wagner, pardon, qui fait renaître l'espoir et qui est la ministre congolaise est restée beaucoup plus prudente. Pour elle, les actes doivent suivre les bonnes intentions et les promesses et la reconstruction de la relation de confiance entre son pays et le Rwanda pourra prendre un peu de temps encore. Je cite « La paix peut être gagnée, mais elle demande du sérieux, de la transparence et de la sincérité », avant de se piquer d'un discours sur les frontières inaliénables de la RDC. Pour rappel, depuis deux mois, des territoires de l'est du pays sont sous le contrôle de la FCM-23, groupe soutenu par le Rwanda. Le Rwanda et la RDC se sont pour le moment donné jusqu'au 2 mai pour parvenir à un accord de paix.
Merci Paul Lorgerie. Vous écoutez Afrique Soir, il est 19h33 en temps universel. Au Soudan, la situation dans la province du Darfour Nord est préoccupante. Les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR se sont intensifiés, notamment autour de la ville d'El Fasher. Ces derniers jours, les forces de soutien rapide ont donc mené des combats et des offensives pour tenter de prendre le contrôle de cette ville, dernière capitale du Darfour, à être encore tenue par l'armée. Et il y a deux semaines, ils se sont emparés du camp de déplacés de Zamzam, à 15 km d'El Fasher, qui a environ 500 000 de personnes. Alexandra, bonjour.
L'attaque du camp de déplacés de Zamzam a provoqué un déplacement de population sans précédent, affirme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Des centaines de milliers de personnes ont fui en quelques jours. Selon OCHA, plus de 330 000 déplacés ont trouvé refuge dans différentes localités de la province, principalement El Fasher et Tawila. Aujourd'hui, le camp de Zamzam a été quasiment vidé, affirme l'ONU. Des images satellites montrent qu'une grande partie a été incendiée et détruite. Et selon plusieurs sources, le camp est désormais contrôlé par des milices locales alliées aux paramilitaires qui empêchent tous ceux encore présents de partir. Le bilan humain de cette attaque sur Zamzam n'est toujours pas connu. OCHA parle de plusieurs centaines de civils tués. Un responsable du camp qui a fui lors de l'attaque estime que le nombre de victimes atteindrait les 1500, dont 12 acteurs humanitaires. Des chiffres impossibles à confirmer en raison de la présence des paramilitaires qui empêchent tout accès au camp.
Et ce matin, le ministre britannique des Affaires étrangères a dénoncé des actes assimilables, je cite, à un nettoyage ethnique.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Direction le Cameroun où le nouvel édifice de l'Assemblée nationale porte désormais le nom de Palais des Verts Paul Biya, du nom du chef de l'État. Le président camerounais âgé de 92 ans et en cette année d'élection présidentielle, cet édifice a été inauguré en grande pompe à Yaoundé, Polycarpe Samba.
Plus qu'un simple baptême, c'était une cérémonie pour célébrer Paul Biya, une orientation parfaitement assumée par les organisateurs. Théodore Datouo, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale.
Et c'est à la dimension de l'homme. Voyez-vous, au Cameroun, c'est le premier édifice public qui porte le nom du président Paul Biya. Il n'y a pas un autre avant celui-ci. Et ça, s'il l'a accepté, ça veut dire que c'est aussi un message très fort qu'il passe au peuple camerounais.
Sur les raisons ayant conduit au choix de Paul Biya pour porter cet édifice, dans de la coopération entre le Cameroun et la Chine, Théodore Datouo évoque un choix d'évidence.
C'est un homme qui a sacrifié des décennies de sa vie à servir le Cameroun. Il a apporté à notre pays d'abord la démocratie et le développement. Du côté de la démocratie, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le respect de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif n'a jamais failli.
La cérémonie particulièrement courue malgré l'absence de Paul Biya avait toutes les allures d'un meeting politique avec un appel sibilant à Paul Biya pour suivre son œuvre.
Nous célébrons quelqu'un qui a très bien travaillé et nous pensons qu'il peut continuer encore à faire davantage. Pourquoi ne pas le dire? Quand il a bien travaillé, est-ce qu'on va lui demander de quitter? C'est à lui de décider, mais pour nous, nous lui demandons de continuer.
Si toute la classe politique a été conviée à la fête, à noter quand même les absences remarquées des plus grands opposants à Paul Biya, comme Maurice Kamto ou Cabral Libi. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle a publié ce vendredi les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril et Brice Clotaire-Oluguin Nguema a obtenu 94,85% des voix, laissant bien loin derrière son principal rival Alain-Claude Bilibinzé, arrivé deuxième et qui a recueilli lui 3,11% des suffrages. Ce soir et demain, c'est la deuxième édition du Festigounaï. C'est un festival d'art qui se tient à Saint-Louis, au Sénégal. Cette année, la marraine de la manifestation est Mambi Mawin, pionnière du théâtre et fondatrice de l'association Djarama. Elle développe depuis plus de 20 ans le secteur du théâtre jeune public au Sénégal, Noah Péré.
Théâtre d'ombre, cirque contemporain ou encore marionnette, c'est le programme du Festigounaï. Et pour ce genre d'événement au Sénégal, Mambi Mawin est au premier rang.
Donc cette année, dans le cadre du festival, je donne une formation avec mon mari, Alessandro. Donc on va fabriquer des têtes de marionnettes, des mopettes.
L'occasion pour elle et pour son association Djarama de mettre sous les projecteurs le théâtre clownesque, un art vivant peu reconnu au Sénégal.
Le secteur jeune public, le théâtre clownesque, c'est vraiment pas des médiums qui sont connus. Parce qu'il n'y a pas d'école qui forme au théâtre clownesque ou à la marionnette. À part Djarama, il n'y a pas de centre qui propose des formations sur ces médiums-là.
Alors depuis de nombreuses années, Mambi Mawin accompagne des artistes et offre aux plus jeunes un éveil à l'art vivant.
Un enfant qui est nourri d'art, développe son imaginaire, est capable de faire, de créer. Donc je pense que si on le montre à des instances qui dirigent, ils peuvent comprendre et accompagner le secteur.
Depuis plusieurs années, des comédiens et metteurs en scène populaires comme Abdelkader Diarra réclament un fonds pour le théâtre afin d'assurer la pérennité de cet art au Sénégal.
Les sports, l'athlétisme et la Ligue de Diamant qui est de retour demain en Chine. Les meilleurs athlètes du monde ont rendez-vous à Xiamen. Parmi eux, Letsile Tebogo, le Botswanais champion olympique du 200 mètres à Paris. Le sprinteur de 21 ans démarre cette saison avec le statut de favori, mais aussi celui de source d'inspiration. Inspiration pour la jeune génération. On écoute.
La médaille au JO m'a beaucoup aidé. Elle m'a ouvert des portes. Et surtout, je suis content que cela ait inspiré tout un tas d'enfants. Nous avons lancé des projets pour amener le maximum d'enfants vers le sport et leur permettre d'évoluer dans de meilleures conditions que notre génération. C'est mon objectif et c'est sur le bon chemin. J'ai envie de dire aux plus jeunes de courir, de ne pas lâcher leurs rêves. Rome ne s'est pas faite en un jour. Moi, il m'a fallu des années pour arriver où j'en suis.
Voilà, donc il est pour l'instant 19h39 en temps universel. Il me reste quelques secondes pour vous dire que beaucoup de chefs d'État africains seront attendus demain aux obsèques du pape François à Rome. Parmi eux, les présidents du Cap-Vert, de Centrafrique, d'Angola, du Congo, du Togo ou encore de Madagascar. Émission spéciale demain sur la Radio du Monde à partir de 10h du matin, heure de Paris.